RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Avec Ali Benarbia, avec Jonathan McCardy, avec vous également sur le hashtag RMC Live. Marseille a fait match nul ce soir à Saint-Etienne, 2 buts partout. Mollet, Paquet et Ibéric ont marqué pour les Verts. Thauvin et Sanson avaient marqué pour l'Olympique de Marseille. L'OM qui a mené à 2 reprises dans ce match. L'OM qui est 2e au classement avec 2 points d'avance sur l'AS Monaco qui jouera demain à Angers. Juste vous rappeler qu'en Italie, en Serie A, la Juve s'est imposée à Florence face à la Fiorentina à 2-0. Tiens, en Allemagne, 22e journée de Bundesliga. Leipzig s'est imposé 2-0 face à
qui a marqué
Augsbourg. Pour
la Juve.
Bernardeschi et Gonzalo Higuain.
Higuain.
Voilà. Et Oup Mécano a marqué pour Leipzig, si tu veux tout savoir. Ah. Accueillons Axel, supporter de l'OM qui nous a appelé au 32-16. Salut Axel.
Bonsoir.
Ça va Axel? Axel.
Ça va très bien. Un peu dégoûté d'avoir fait match nul. Mm-hmm.
Alors qu'est-ce que tu retiens de ce match? Tu l'expliques comment d'ailleurs, toi, ce match nul?
Ben écoutez, on a fait un très bon match. Moi, je vais pousser un coup de gueule vis-à-vis de Mitroglou.
Alors, vas-y.
Je l'ai toujours défendu vis-à-vis de mes. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont critiqué. Je l'ai toujours défendu. Je dis bon, il revient de blessure, il parle pas français, tout ça. Mais ce soir, ce qu'il a fait, c'est impardonnable.
Tu fais référence à quoi?
À son occasion.
L'occasion qu'il a eue, c'était plus difficile
en fin
de
match,
la rater que de la mettre. Exactement.
Ah,
ça commence à faire beaucoup. Sincèrement,
il était pas titulaire non plus.
Non, mais je suis dans le même cas que toi. Je l'ai beaucoup défendu, mais c'est dur là.
Après, je vais pas le défendre, hein, mais sur l'action, il a l'impression, il a le sentiment d'être hors jeu. D'ailleurs, il regarde direct l'arbitre assistant.
Mais il joue.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Je pense qu'il y croit pas.
Écoutez, on a payé 20 millions d'euros, on a acheté la moitié de ses droits. On l'a pas payé en plus à 100%. Ce qu'il est en train de faire, c'est ça commence à faire trop. Et on est à l'OM.
Donc c'est quoi,
Axel,
c'est la faute de Rudy de le faire jouer?
Non, il fait pas jouer, c'est un coup de poker. Il a voulu le faire entrer. Ça aurait pu être payant, mais ça commence à faire beaucoup quand même. On est à l'Olympique de Marseille. On veut un grand attaquant.
Ah bah tu l'as pas.
Hein. Il doit tuer le match. Mmh. Il le met, on a gagné. Enfin, je veux dire, le match, on ne va pas faire un match nul. Nous, à Marseille, je vous dis, on était dans les. Je l'ai regardé au bar. On était tous en train de regarder le match. On est dégoûté d'avoir fait match nul ce soir. Mmh. On perd des points.
Donc c'est déjà bien ça, que Marseille maintenant pense à surtout gagner tout le temps pour garder cette deuxième place.
Mais Saint-Etienne était tellement faible ce soir.
Non mais gagner tout le temps c'est quoi? C'est passer à la vitesse supérieure même quand tu gagnes 2-1. C'est l'erreur à faire d'attendre la fin du match pour dire on va rester à 2-1.
Axel, oui, je sais pas ce que t'en penses, mais quand on regarde le match de l'OM ce soir, je me dis ok, certes, il y a ces ratés en fin de match, celui de Mitroglou et celui de Thauvin, dans les derniers instants de jeu. Mais quand même, derrière.
Ouais, mais le problème, c'est moi, c'est compliqué. Le problème, c'est pas devant, hein, forcément.
C'est compliqué, c'est derrière.
Le problème, en ce moment.
Les deux buts, ils sont largement évitables. Je pense
qu'il y a des intentions. Il y a des
intentions. Il y a des intentions. Sur le dernier but, Mandanda, je l'adore, mais c'est vrai, sur le dernier but,
Mandanda, c'est pelé, hein, Axel.
Ouais, c'est pelé, pardon.
Je vais te dire, Axel, sur le dernier but, t'as.
Si à Mandanda, c'est pas pareil.
Sakai, que j'aime beaucoup, qui laisse son très bon bas.
Oui, mais bon.
Rami qui lâche le marquage sur Berich.
Non, c'est
Sarr qui fait une compensation un peu foireuse, vu que Rami lâche le marquage et qui essaie de courir derrière Berich et qui saute pas pour le gêner. Et t'as Pelé qui se fait lober par le ballon. Ça fait 4 erreurs individuelles largement évitables.
C'est vrai, mais après, on a eu 3 occasions. Je vais vous dire, on a eu l'occasion de Mitroglou qui l'a raté. On a eu une contre-attaque, on était 5 contre 3, on a raté la contre-attaque.
Match,
et
non,
la
même,
dernière minute du match, on a raté
Axel,
aussi la reprise.
Ngier, il m'a fait chaque fois des choix catastrophiques, Ngier.
Oui,
ses crochets.
C'est celui dont on parle le moins, finalement.
Non,
Il avait fait un super début de saison, d'ailleurs.
Ouais. Ngier, ça n'a jamais été vraiment ça. En fait, Ngier, je comprends pourquoi il le fait rentrer. Il se dit, OK, on va jouer un peu le contre.
Ouais,
Ngier, un peu de vitesse, un peu de profondeur. Donc, Ngier, il est rapide, pourquoi pas. Mais encore une fois, j'en reviens. Je pense que le péché originel de Garcia sur ce match, si je peux dire comme ça, c'est sa composition de départ. Si tu mets Sanson à la place de Zambo, tu joues autrement.
Ouais,
tu joues autrement et tu fais des changements qui sont différents.
Mais pour lui, à l'extérieur,
je vois pas NG dans le match.
Mais à l'extérieur, il lui faut au moins 2 joueurs qui sont très costauds pour récupérer le ballon.
Je suis désolé. Ouais. Sanson, il est costaud pour récupérer le ballon.
Mais Anguissa, Gustavo,
je te laisse en parler avec Roland, tu verras. Sanson, il est pour récupérer le ballon et il est top.
Mais pour Rudy, d'avoir 2 joueurs comme Gustavo Anguissa se battre au milieu, à l'extérieur, c'est ce qu'il a besoin.
Sanson.
Si. Mais Anguissa, physiquement, c'est beaucoup plus costaud.
Ouais, pour lui,
je pense que dans sa tête, à Rudy.
Anguissa, sincèrement, c'est un bon jeune, mais je pense qu'il est un petit peu juste encore. Quand il joue avec Gustavo, ça va, mais c'est un peu juste, je pense. Mais le ressenti que j'ai ce soir, c'est qu'on a perdu 2 points. Et sincèrement, ça fout les boules.
Ouais, moi, j'aimerais juste dire que tu vois, j'ai beaucoup tapé sur Garcia, notamment la saison dernière, et pour dire que ce qu'il fait depuis le début de la saison, c'est admirable.
Ah oui, je vous donne juste une stat. Je suis total accord avec vous.
Je vous donne juste une stat. Dixième match sans défaite.
Vas-y, Axel.
Je suis abonné au Vélodrome. Garcia, en début de saison, quand on a perdu contre Monaco, après on a perdu contre Rennes au Vélodrome. Tous au stade, on était en train de critiquer Garcia. Et il s'est remis en question, et sincèrement, voilà.
Et bien, tu sais quoi, Axel, on va l'écouter, Rudy Garcia. Il est en ce moment même en direct en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM. Jean-Louis Gasset, pardon, même d'ailleurs. C'est Jean-Louis Gasset.
Il fait l'arrêt à la dernière seconde, donc pour nous, c'est un bon point.
Allez, Jean-Louis Gasset en direct en conférence de presse. Saint-Etienne qui a arraché le match nul 2-2 à domicile face à l'OM. Et qui a été mené à deux reprises dans ce match. Jean-Louis Gasset en direct.
Oui, l'état d'esprit, bien sûr, parce qu'il y avait eu déjà une cascade dans la journée entre la non-qualification de Rémi Cabella, la grippe subite de Yann Envia à l'hôtel et un but au bout de 3 minutes. C'est un match qu'on aurait pu perdre largement si on n'avait pas été armé moralement. Ça, c'est à retenir.
Ouais, c'est vrai que l'aspect mental, il a été important. On en parlait tout à l'heure dans les trois points, mais Saint-Etienne est revenu à deux reprises dans ce match. Ah, et l'analyse de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, qui a fait match nul de 2 face à l'OM.
En seconde mi-temps, on a été un peu mieux techniquement, parce qu'en première mi-temps, j'avais fait une équipe solide parce que je savais que Marseille partait très fort. Et malheureusement, au bout de 3 minutes, c'est ou une glissade ou un exploit de Thauvin, mais on est déjà mené 1-0. En deuxième mi-temps, on s'est un peu plus décontracté, on a posé un peu plus le ballon, on a été un peu plus en confiance et on s'est quand même créé des situations.
Allez, c'était donc Jean-Louis Gasset en direct en conférence de presse. Axel, voilà, je me suis planté de Jean-Louis, Jean-Louis G. C'était pas le bon. Je voudrais avoir ton sentiment sur le calendrier. On l'évoquait tout à l'heure, le calendrier de l'OM. Il y a la double confrontation contre Braga en Ligue Europa. Il y a Bordeaux. Il y a la double confrontation face au PSG aussi en Coupe de France et en Ligue 1. Comment tu les sens là, les prochains matchs là?
Bon, ben sincèrement, au niveau du tirage, c'est au niveau du tirage de la Coupe de France, c'est un petit coup dur pour nous. Après, on va jouer deux fois à Paris. J'espère qu'au moins une fois sur deux, on va réussir à les battre.
Bah tiens, pour répondre au sondage de Laurent Fala, sur les deux prochaines confrontations, sondage que vous retrouvez sur le hashtag RMC Live, les deux prochaines confrontations PSG-OM, tu vois Marseille gagner une fois, deux fois, zéro.
Ben, j'espère une fois, et je vais vous dire une chose, je suis un petit peu chauvin. J'espère qu'on va les battre avant qu'ils aillent jouer au Real de Madrid. D'accord. Histoire de mettre un petit coup au moral.
Eh ben c'est tu sais, merci Axel de nous avoir appelé.
Axel.
Bonne soirée Axel, à bientôt.
Ce que je disais, c'est que bon, j'ai beaucoup tapé sur Garcia, notamment quand il est arrivé la saison dernière. Et force est de constater que ce qu'il fait depuis le début de saison, c'est admirable. L'équipe joue mieux, il s'est remis en question, notamment après le match contre Rennes et contre Monaco. Il a changé de système alors qu'on pensait qu'il était totalement borné sur son 4-3-3. Il a réussi à organiser l'équipe en 4-2-3-1 en mettant chaque joueur à sa bonne place. Maintenant, ce que j'attends, pour vraiment totalement retourner ma veste, c'est que quand Marseille joue à l'extérieur contre des adversaires supposés plus forts, et ben dans ta composition d'équipe, tu sois pas frileux comme tu l'es ce soir. Tu mets Sanson avec Gustavo. T'arrêtes de mettre Zambo. On a rien à lui reprocher à Zambo. Il est très bon, il fait le travail et tout. Mais assume que tu es le deuxième de Ligue 1 et tu mets Sanson et Gustavo. Ça te laisse des possibilités offensives qui sont tout autres. Ça te permet de mettre Ocampos, qui est un vrai chien de la casse, un peu sur le côté, qui est très bon, qui permet.
Alors, il était pas dans le groupe. Alors, visiblement, il était peut-être touché, d'ailleurs.
Ça permet beaucoup de choses. Mais au moins, Sanson dans le cœur du jeu. Pas en 10. Mets-le au milieu.
T'as rien à lui reprocher dans ce match-là aujourd'hui. Quand je vois l'OM, ils sont sereins. Ils sont meilleurs techniquement que Saint-Etienne. Ils marquent, dès qu'ils accélèrent, ils ont fait mal à Saint-Etienne. Le seul problème, c'est pas Rudy Garcia, c'est que les joueurs à 2-1. Non, c'est pas défensivement. Les joueurs à 2-1, toute l'équipe. Ben, Thauvin s'est relâché un peu, Payet et tout. Ils ont accéléré par obligation.
Sauf que quand Sanson joue au milieu, ça transforme le visage de l'équipe et l'équipe joue toujours vers l'avant.
Mais il était
toujours
milieu,
vers l'avant.
Mais il était au milieu.
Elle est beaucoup plus tueuse, l'équipe.
Non, mais Sanson, il est au
milieu. Et jouant en 10, il était beaucoup plus haut que ce qu'il voulait d'habitude. Il était pas devant la défense.
C'est dire quand même la perf de Saint-Etienne, sur les 10 derniers matchs, Marseille comptait, compte maintenant 2 nuls et que des victoires. Hein, et 8 victoires. L'autre nul, c'était 2-2 face à Monaco. Ouais. C'est-à-dire que Marseille faisait que gagner hein, jusqu'ici. Hein. Alors, bien sûr, pas être confondu, bien entendu. On va voir ce qu'en pense les Stéphanois, justement. Fabrice,
ouais, à dire pour
supporter de Vert, nous a appelé au 32-16. Salut Fabrice.
Oui, bonsoir.
Salut Fabrice. Salut Fabrice.
Alors Fabrice, logique ou pas ce match nul ce soir?
Bah oui, moi j'arrive pas à comprendre. D'habitude, je suis toujours d'accord avec ce que vous dites, mais là, je viens du match. Et moi, il faut m'expliquer, Ruffy n'a pratiquement rien eu à faire.
Oui, c'est vrai.
J'ai pas eu beaucoup de fautes de Saint-Etienne aux 20-25 mètres des coups de corner marseillais. Donc, j'en conclus qu'ils sont pas tant fait bousculer que ça. Ils ont pris beaucoup de ballons à 40 mètres des cages. Marseille joue à la baballe, comme l'a dit tout à l'heure le supporter de Marseille. Mais ça, on n'y peut rien. Après, donc
mais
moi, je
raison.
Trouve qu'on a eu une grosse occasion qu'à un moment en début de deuxième mi-temps. Il y a eu un arrêt en deuxième mi-temps également de Pelé. Je trouve que le nul est logique. Les deux équipes ont été très opportunistes, à mon avis. C'est-à-dire que le peu d'occasions qu'ils ont eu, ils ont mis dedans. Bon, après, c'est clair que la sortie de Mandanda, elle était clé. Ça, c'est clairement, ça a été.
Mais t'as raison, mais tu te trompes à la fois. Tu te trompes parce que en fait c'est pas de tout dans tout ce que tu dis, on peut pas te contredire parce que c'est les faits et t'as raison. Saint-Etienne a eu plus le ballon quand on regarde les stats que l'OM, mais c'est dans l'impression. Et dans l'impression générale laissée par les deux équipes, je pense que tu vas pas me contredire quand je te dis que Marseille, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, on avait l'impression que s'ils accéléraient, ils pouvaient faire vraiment mal à Saint-Etienne.
Oui, mais
que Saint-Etienne avait beau. Bah, c'est justement tout ce qu'on reproche à l'OM ce soir.
Non, mais de toute
façon. Après, t'as un adversaire en face, c'est peut-être le jeu de Saint-Etienne aussi.
Non, c'est pas ça, c'est que. Non, je les ai trouvés pas aussi tueurs que d'habitude.
On n'a pas dit que le match nul.
Le scénario du match
n'était pas mérité, le match nul est mérité. C'est que, au moment où l'OM gagne 2-1, le problème, c'est qu'ils n'ont pas accéléré pour essayer de mettre la pression à Saint-Etienne. Ouais. Mais à la fin du match, le match nul est mérité dans le sens où il y a des occasions de part et d'autre.
C'est exactement ce que j'ai dit. C'est le scénario du match, mon ami, c'est le scénario du match qui fait ça. C'est que Marseille ouvre le score très vite.
Non, donc, ils
enlèvent le pied de la pédale d'accélération. Mm-hmm. Saint-Etienne égalise, ils réaccélèrent. Il y a 2-1.
Mais Jonathan, pour aller dans le sens de ce que dit Fabrice, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est ce qu'a dit Jean-Louis Gasset là aussi. Ils ont quand même une certaine force mentale, il y a aussi du talent, il a fait les bons choix aussi.
Voilà. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que je pense aussi qu'on se donne trop l'image du Saint-Etienne début de saison, c'est-à-dire qu'il était nul, mais vraiment nul. Moi, ça me faisait honte, cette équipe. Autant là, je pense qu'on va peut-être en surprendre plus d'un, et on verra que le nul de Marseille, finalement...
Ouais, ça va faire du mal. T'as pas tort, Fabrice.
On verra, parce que moi, je rate jamais un match de Saint-Etienne, et franchement, on voit quelque chose qui se met en place, et ce soir, il nous manque Mvilla et Cabella, et je pense que si ces deux joueurs avaient été là, c'est encore une autre histoire. Et cette année, si on est bien complet, qu'on n'a pas trop de blessures, je pense qu'on peut être dans les 8 premières places. Pour moi, on peut jouer à la 6e et 8e place.
Ah, c'est sûr que Saint-Etienne va remonter avec Mvilla et Cabella, c'est pas la même équipe.
Il y a du talent, hein, parce que.
Non, c'est
sûr. Je vois, tu trouves Youssef super fort.
Ah, il était bon, Youssef,
ce
soir.
Il est bien. Il est super fort. Il a raté sa nom de ballon. Il a 19 ans, ce jeu. 19
ans. Il est super bon, Youssef.
Il est super bon.
Moi, c'est déjà en Italie, j'y m'avais tapé dans l'œil.
Par contre, t'aurais dû acheter un téléphone au mercato, recrutant le téléphone.
Je compte sur toi pour m'en offrir.
T'as raison, je bosse pour SFR. Tu en vas écouter Jean-Louis Garça, il est en direct en conférence de presse.
Jean-Louis
Garça.
Oh le mec,
oh, tu nous
trop de Jean-Louis les mecs, on les a tous.
Très important et que son absence soit courte.
Et Rudy Garcia en direct en conférence de presse.
Je suis mécontent, je pense qu'on n'a pas fait grand chose pour le gagner. On ne peut pas gagner un match en faisant une deuxième période comme on l'a faite, en jouant en marchant. Voilà, c'est pas suffisant pour nous. On n'est pas ce genre d'équipe, il faut qu'on joue à fond. Il faut, voilà, on a entamé le match comme il fallait, on a marqué, ils ont égalisé, on a poussé pour marquer un deuxième but, on l'a fait. Puis petit à petit, on s'est endormi, et plus de mouvement. Ils étaient certes pas dangereux, mais on n'a pas joué pour gagner la deuxième période, et du coup, est arrivé ce qui devait arriver, qu'ils égalisent. Puis comme par miracle, on s'est remis à jouer, on a eu 3-4 occasions, mais c'était trop tard. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir qu'on retombe un peu les pieds sur terre. Et qu'on joue à 100% tout le temps. C'est mon analyse du jour.
Allez, l'analyse de Rudy Garcia, l'entraîneur de l'OM.
On a trop géré, oui. Et on a reculé, enfin voilà. On a pu jouer pour gagner la deuxième période. Pourtant, on leur avait bien demandé de le faire, de gagner la deuxième période. Voilà, mais c'est bien. Ça va permettre de continuer à serrer les boulons, parce que je pense qu'on en a besoin.
Voilà l'analyse donc de Rudy Garcia, match nul 2-2 entre l'AS Saint-Etienne et Marseille. Oh bah tiens, il est parti Fabrice. On l'embrasse Fabrice, supporter des Verts qui est avec nous en direct dans l'after. On va accueillir Antoine.
Oui, allez, cette équipe de Marseille doit être à 100%, mais pas chaque match. Pandan est 90 minutes.
C'est marrant, les deux coachs ont les mêmes analyses que nous au final du match.
Oui, mais bon, c'est différent.
De façon moins objective, très certainement. Enfin, ça dépend de qui on parle, parce qu'il y a quand même Jonathan Macardy, mais enfin, ça c'est notre histoire. Accueillons Antoine, supporter des Verts. Salut Antoine.
Salut.
Salut Antoine.
Alors, Antoine, toi, quel est ton avis, toi, ton sentiment après ce match, après ce 2-2 de ton équipe de Saint-Etienne face à Marseille?
Bah, moi, je suis très satisfait parce que on est tombé face à une équipe qui était meilleure que nous, déjà. Voilà, pour moi, Marseille, c'est vraiment très, très fort. Je pensais pas que c'était aussi fort que ça. Et je trouve qu'on voilà, a eu les ressources mentales pour revenir deux fois. Il y a quelque chose qui se met en place depuis plusieurs matchs. Je trouve qu'on progresse vraiment. On fait des matchs vraiment très intéressants en contenu. L'entraîneur change beaucoup de choses. Donc, je suis vraiment satisfait du match que j'ai vu ce soir.
Alors, t'en penses quoi, tiens, des recrues? Parce que c'est vrai que tout à l'heure, Fabrice nous le disait aussi. On avait un peu cette analyse, et c'est celle qu'on a depuis quelques matchs, mais le mercato a vraiment fait du bien à cette équipe. T'en penses quoi, toi, des Subotic, Beric qu'on a vu aujourd'hui, Intep également? Alors, Mvila était absent, mais...
Qui a fait le mercato?
Bah, c'est clair que c'est bien supérieur à ce qu'on avait sur la première partie de saison. C'était catastrophique. Là, les Lacroix, Pogba, c'était niveau Ligue 2, voire National. Donc là, voilà, on a une équipe qui tient la route. C'est simple, hein. On a des joueurs de foot, donc on arrive à jouer au foot. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça.
Faut pas exagérer non plus. Pogba, Lacroix, c'est pas niveau Ligue 2.
Sur la première partie de saison, je peux te jurer. Ouais,
non, mais c'est
toute
l'équipe. Hein. Attention, Antoine, j'ai regardé cette équipe de Saint-Etienne, en plus avec un Perrin blessé, un Ruffier qui a fait la bêtise qu'il fallait pas faire, alors que c'est un joueur important, leader, d'être suspendu autant de temps. Et tout le monde était à fond la tête dans le trou. Hein. C'est surtout pour ça. Et en plus, le changement d'entraîneur aussi vite. En plus, le petit jeune Sablé, malheureusement, c'était peut-être pas le moment de le mettre. Il fallait.
Ah bah, carrément.
Et c'est vrai qu'il y a eu un enchaînement d'événements et de choix.
C'est que quand ça va bien pas, sûr, tu mets sûr. L'entraîneur de la réserve en général, qui était censé être Batès, je pense, et qui a beaucoup plus d'expérience que Sablé, et à vouloir trop faire plaisir à une personne plus d'une autre. Ben, t'as encore perdu des points, et puis même si Gassé est arrivé, c'était dur. Et c'est vraiment le mercato qui a changé. Alors, je sais pas si c'est notre ami, comment il s'appelle, Paquet, qui a fait le boulot au niveau du mercato.
Il a mis le paquet, hein.
Mais en tout cas, ouais, c'est vrai qu'il a mis le paquet, et Monet Paquet, il a marqué encore.
Oh la jolie, allez! Ça, c'est bon, ça. Tiens, Antoine, il y a le derby qui arrive bientôt également. Il y a deux déplacements d'ailleurs à venir pour Saint-Etienne, à Angers et à Lyon. On commence à y penser, là. Ça commence à sentir le derby du côté de Saint-Etienne ou quoi?
Ouais, moi j'y pense un peu, surtout qu'on a tous un peu en travers le match aller, quoi. Bon, on avait été ridicule. On va voir, bon, ça va être compliqué
5-0,
parce que Lyon,
ça
va être compliqué parce que Lyon c'est quand même c'est un niveau au-dessus. Mais bon,
t'es pas rassuré quand même, justement. On disait que cette équipe elle était mieux.
Voilà, je trouve que c'est quand même mieux. Je pense qu'on peut essayer d'aller rivaliser là-bas. Voilà, de là faire un résultat, on en est loin, mais je pense qu'on peut faire quelque chose et. Voilà, je suis assez confiant pour la deuxième partie de saison. Si on n'a pas de blessés, si l'équipe arrive à tenir, pourquoi ça peut être pas mal. Je pense qu'on peut terminer entre 8 et 12, quoi.
Ah bah, y a du monde qui va terminer entre 8 et 12 heures.
Il y en a 4. Il y en a 4. Merci Antoine de nous avoir appelé. À bientôt.
Merci Antoine.
Bonne soirée. Salut Antoine. On va se faire l'évaluation de ce Saint-Etienne-Marseille. Je vous rappelle le score de cette première affiche de la 25e journée de Ligue 1. 2 buts partout. Monet Paquet. Alors le premier buteur d'ailleurs, c'est Thauvin. Égalisation de Monet Paquet. On est seulement à la 9e minute de jeu. Sanson à la 20e. Redonne l'avantage à l'OM. Et en toute fin de match, un quart d'heure de la fin, c'est Beric qui est rentré en cours de jeu et qui donne le point du match nul aux Stéphanois. On va accueillir Guillaume pour faire l'évaluation de ce Saint-Etienne-Marseille. Salut Guillaume.
Bonsoir.
Salut. Tiens, avant de passer à l'évaluation, Guillaume, bienvenue à toi dans l'after. Tu voulais faire une petite analyse sur les latéraux, c'est ça, de l'Olympique de Marseille?
Ouais, parce que je suis d'accord avec vous sur toute l'analyse que vous avez sur la défense de Marseille en ce moment. Et il y a juste un point qu'on oublie, c'est qu'on n'a pas nos latéraux en ce moment.
Il manque Jordan à ma vie.
Il manque à ma vie, il manque Sakai du coup, parce qu'il n'est pas du bon côté.
C'est vrai, t'as raison.
Et je trouve que ça étire beaucoup nos centraux. Parce que sur le premier but, par exemple, Rami se fait enfumer.
Totalement raison, Guillaume.
Mais il a rien à faire là, parce que c'est Sarr qui devrait
totalement.
Le prendre. Et contre Monaco, contre Metz, ils sont passés dans l'axe. Ce soir, Saint-Etienne, ils sont passés par les côtés. Mais en ce moment, c'est soit on passe par les côtés, la défense s'étire et il y a de la place, soit on passe au milieu et il y a un trou. Et il faut absolument que Jordan Amavi revienne très très vite.
Il économise un petit peu, mais
j'ai pas compris justement pourquoi à l'heure de jeu, il a pas fait rentrer à ma vie. refaire passer sa caille à droite, dans la mesure où Saint-Etienne, quand même, réussissait à passer, et comme par hasard...
Exactement, Guillaume.
Juste en avoir ton avis là-dessus, Ali, parce qu'à Montpellier, on fait un petit peu la même analyse depuis que Roussillon est blessé. C'est vrai que vous savez que Montpellier avait la meilleure défense de Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Depuis que Roussillon n'est pas là, ils ont tendance à encaisser pas mal de buts. C'est vrai que souvent, quand on pense défense, on pense charnière et milieu d'eff, on va dire.
Et la force des latéraux, c'est qu'en plus, bon, Roussillon et Aguilar, c'est pratiquement des attaquants.
Mais pareil, Aguilar, il joue pas forcément de son côté maintenant.
Exactement. Et surtout, il coupe à tous les coups parce qu'ils ont cette faculté à aller très vite et ils compensent énormément. Et ils ont pris l'habitude de jouer avec Alex. C'est pour ça que quand tu as Mavi à gauche et Sakai, ben, Rolando et Rami, qui ne sont pas non plus des joueurs très vifs, ils aiment pas trop aller sur les côtés et ça les aide énormément d'avoir Mavi et Sakai.
Parce que, Mavi, là, il a une qualité qui est indéniable. C'est qu'outre le fait qu'offensivement, je trouve bon, je pense que défensivement, il est très bon. Il se place très bien. Ses alignements sont toujours nickel. Et surtout, il est bon de la tête. Comparé à, quand tu joues avec Sakai ou Bounassar. Quand t'as Sakai et Bounassar, en fait, sur les côtés, t'as deux latéraux qui se projettent, qui apportent offensivement. Sakai, quand il joue à droite, il est très bon offensivement. Quand il joue à gauche, il est moins bon. Mais quand il joue sur bon côté, il est bon offensivement. Donc quand t'as Amavi et Sakai, les deux sont bons offensivement. Et défensivement, t'as quatre joueurs qui sont très très clean. Et qui se comprennent, qui s'alignent au même moment. Et quatre joueurs qui... Sakai est peut-être un petit peu en dessous, mais les quatre joueurs sont bons de la tête. Et ça, ça aide pas mal pour une défense.
Tiens, précision sur le hashtag MC Live de Grégory et de Johan. Entre la 8e et la 12e place, il y a 5 équipes. Parce qu'il y a des équipes qui sont incluses également. C'est important, c'est dire à quel point nous sommes des brels en maths. On va faire les vols avec toi, bien qu'on soit nul en maths.
8e inclus.
Inclus. Guillaume.
Oui.
Ton homme du match ce soir.
Oh, Béric.
Ah ouais, tu mets un Stéphanois, toi.
Ah ben oui, quand il est entré, il a quand même changé.
C'est Béric, il a raison.
Il a super apporté à Saint-Etienne, et Saint-Etienne, ils font match nul grâce à Béric.
T'as raison, Guillaume. Béric et Sanson.
Sanson côté marseillais.
Et Sanson, Et Gustavo quand même. Mais le problème de la Spiro, il rejaillit aussi sur Gustavo, mine de rien.
Parce qu'il est obligé de faire des compensations qui sont pas habituelles pour lui.
Et du coup, il est très bon sur l'aspect défensif encore ce soir, machin, mais ça fait 2-3 matchs qu'il apporte rien offensivement.
Parce qu'il compense beaucoup sur Bounassar aussi.
Sur Sakai.
Qui n'apporte rien offensivement?
Gustavo.
Quand tu as Sanson, Payet, Tovin, Germain, tu vas pas.
Attends, et depuis 3 matchs, t'as marqué 20 buts. C'est pas le problème. Mais voilà.
9 contre Bourg et 6 contre Metz.
Faut pas trop demander à Gustavo, encore plus lui, d'attaquer.
Guillaume, t'as raison, il fait beaucoup de compensations sur le côté gauche et ça fait qu'il est beaucoup moins présent offensivement. C'est une bonne remarque.
C'est ce qu'on dit, c'est que si à Mavi et Sakai, Gustavo, lui-même se lâche un peu plus.
Avant d'avoir ton boulet. Vas-y, Guillaume.
Mavi, quand il est entré dans l'équipe, moi j'ai trouvé qu'il avait stabilisé l'équipe, surtout par rapport au match contre Monaco-Rennes. Et il a stabilisé l'ensemble de l'équipe, y compris le milieu, y compris l'attaque.
Dans l'équilibre du bloc, en fait, qui penchait un petit peu sur un côté, t'as raison.
Ton boulet, c'est qui ce soir, Guillaume?
Payet.
Payet, j'ai pas trouvé qu'il ait fait un mauvais match.
Franchement, il a fait des matchs pires que ce soir.
Ce qui m'a étonné simplement, c'est qu'il ne frappe plus.
C'est ça. Le nombre d'occasions où il a la balle, il est en position de frappe
ou la position de face, il ne le fait pas.
C'est pas bien.
Alors que d'habitude, il enroule, il peut, tu vois.
T'attends plus de lui quand même.
C'est dommage.
Parce qu'il touche. En fait, t'attends plus de lui parce que.
C'est
Jean Nico. Mais en fait, pourquoi je te dis qu'il s'est le boulet? Parce qu'il est très disponible. Il est facile à trouver par ses coéquipiers. Il touche beaucoup de ballons. Mais dans l'utilisation sur les 30 derniers mètres, c'est-à-dire là où tu l'attends, il est pas présent.
Moi, c'est Gabriel.
Et c'est quand même con pour un joueur de ce standing-là.
Gabriel Silva, j'ai pas aimé du tout. Il a fait tout faux.
Sur le premier but, il est pour sa pomme.
Non, mais tout le match, il a fait tout faux. J'ai rien compris du tout.
Le premier but, il est pour lui. Faux.
Guillaume, t'as qui, toi?
Et je dirais un deuxième, Pelé, sur le but.
Guillaume?
Moi, j'hésite entre Mitroglou et Garcia ce soir.
Non, Garcia, pourquoi?
La compo de départ.
Mais c'est pas la compo de départ, et vous mettez deux fois dans le match,
Si Amavi ne démarre pas, il a bien 30 minutes dans les jambes puisqu'il a joué à Bourg. Faire sortir Germain pour mettre Mitroglou.
Sanson qui commence pas au milieu.
Ali a raison, il y a des gros matchs qui arrivent. Tiens, une réaction de Stéphane sur l'hashtag MC Live. C'est pas Garcia le problème ce soir, ce sont les joueurs. On l'a vu, quand ils décident d'accélérer, ils font mal ce soir. Ils ont pas joué.
Guillaume, ça t'a pas choqué de voir l'alignement de Morgan Sanson au début du match?
L'alignement ?
Enfin, la positionnement.
La position, ben, c'est-à-dire que s'il n'y a pas Payet, ça peut libérer de l'espace pour quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, Sanson, il peut être légitime à cet endroit-là. Mmh. Mais s'il y a Payet, je ne vois pas ce que c'est Sanson. S'il y a Sanson, je ne vois pas ce que c'est Payet. Mmh. Et à ce moment-là, je préfère voir Ocampos à gauche à ce moment-là.
Exactement. Voilà, ben, on est d'accord.
Ah, c'est le, alors, c'est quoi ? C'est, le,
c'est la... de ne pas mettre Zambo, tu joues, tu fais tes courageux, tu joues comme quand tu joues à domicile, tu mets un milieu, Gustavo, Sanson. Ocampos à gauche, Payet dans l'axe, Tovin à droite.
Venir,
tu fais comme ça à tous les matchs. T'as quand même des certitudes dans le jeu maintenant.
Pour te permettre. Alors merci Guillaume, merci de nous avoir appelé Guillaume. À bientôt.
Salut
Guillaume. À bientôt Guillaume. Bonne soirée à toi Guillaume. On vous rappelle match nul 2-2 entre Saint-Etienne et Marseille. Monet Paqueberidge côté buteur côté vert. Tovin Sanson côté stéphanois. Pour finir avec cette précision, cette analyse mathématique, Govigno sur l'hashtag RMC Live. Techniquement, entre la 8e et la 12e place, ils sont 5 ou 3. Si c'est vraiment entre la 8e et la 12e, si t'inclus pas la 8e et le 2.
Exact. Donc on passe à 3, 4, à 5.
Non, au final, c'est pas 4. Quoi qu'il arrive, quel que soit X, l'Égypte est éliminée. Ah. Tu te souviens de ça ou pas ?
Non.
Malik Boutry, qui tu connais pas ?
Non.
Oh, faut que je te fasse écouter ça. Bah tiens, je vais te le faire écouter là. On va faire une petite pause. On revient dans quelques instants. On va parler du Paris Saint-Germain dans quelques instants. Le Paris Saint-Germain qui demain à 17h, ce sera le premier match de demain de Ligue 1 d'ailleurs, et bien sera à Toulouse. Il n'y a pas Cavani, il n'y a pas Kurzawa, il n'y a pas Mota non plus. Et on vous pose cette question. Quelle sentinelle voulez-vous du côté du Paris Saint-Germain ? On est à J-5 du 8ème de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. On attend vos propositions, vos indications sur le hashtag RMC Live au 32-16. Ali Benarbia et Jean-Jonathan Macardé se feront un plaisir de débattre avec vous.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Avec Ali Benarbia, avec Jonathan Macardy, avec vous également au 32-16 et sur le hashtag RMC Live, bien entendu. L'Olympique de Marseille a fait match nul à Saint-Etienne ce soir. Première affiche de la 25e journée de Ligue 1, Mohamed Boutric. Quel que soit X, l'Egypte est éliminée. Alors c'était son consultant à l'époque, je te laisserai la regarder sur les réseaux sociaux. Voilà, première affiche de Ligue 1 demain 17h, autre affiche de Ligue 1, ce sera la première d'ailleurs de ce samedi, Toulouse, Paris Saint-Germain. Les dernières infos du côté du Paris Saint-Germain, on est à J-5, on le rappelle, du 8ème de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid. Cavani est out pour le match de demain face au TFC. Alors tiens, petite information de Saber Desfarges qui est allé vérifier, la dernière titularisation du trio d'attaque Neymar, Mbappé, Cavani, elle date du 20 décembre dernier, c'est lors du match face à Caen, victoire 3-1. À noter que Mbappé et Cavani avaient marqué, Berchiche avait planté le troisième but du Paris Saint-Germain. Kurzawa est touché à la cuisse droite, il est également de côté. Et Thiago Motta qui a repris l'entraînement, eh ben, il n'a pas été convoqué. En revanche, il y a le retour d'Adrien Rabiot. C'est le moment justement de vous poser cette question. On est donc à J-5 de ce fameux 8ème de finale. Quelle sentinelle voulez-vous pour le Paris Saint-Germain ? Je me tourne vers toi, Ali. Il n'y a pas Thiago Motta demain, c'est l'une des surprises hein, quand même dans le groupe du PSG. Hein.
Si Thiago Motta n'est pas là et qu'il n'a pas de match référence au niveau du rythme, déjà, bah, tu mets une croix. La Sanadira, je pense que c'est encore trop tôt pour jouer un gros match comme si ça serait contre Marseille en Coupe de France, je serais d'accord. Mais contre le Real, c'est pour moi le trio, beaucoup plus que de parler de Sentinelle, c'est le trio qui marche en ce moment, c'est-à-dire Lo Celso, Rabiot et Verratti. Dans le sens où Lo Celso, ça y est, il a le rythme, il est bien, l'équipe l'a accepté. En ce moment, si ce n'est pas Mota, je vois pas quelqu'un d'autre jouer que Lo Celso.
Unai Emery s'est exprimé hein, sur le jeune argentin, il a dit « je suis très content de lui, il a toute ma confiance hein, », a déclaré Emery. Juste pour vous donner les joueurs qui ont joué à ce poste hein, cette saison Paris Saint-Germain, celui qui a le plus joué à ce poste de sentinelle, c'est Mota. Il y a Rabiot ensuite, il y a eu Verratti et Lo Celso, et là Sanadiara qui vient d'arriver au Paris Saint-Germain aussi. Ton avis, toi, ton sentiment, Jonathan ?
Bah, je change pas de cap depuis le début de la saison. Je pense que ça doit être Adrien Rabiot qui doit accepter de jouer à ce poste-là. Je trouve qu'il est monstrueux à ce poste-là. Je trouve qu'il a toutes les qualités pour être un des top joueurs européens en sentinelle devant la défense. Je comprends pas pourquoi il y a cette réticence de sa part de ne pas jouer à ce poste-là.
C'est possible.
Il est bon défensivement. Jouer, hein. Il est intelligent. Il a le jeu long. Il a le jeu court. Il a une densité physique qui est importante. Et dans les duels, je le trouve bon. Moi, pour moi, la sentinelle du PSG, c'est Rabiot. Point barre. Après, si éventuellement tu veux chercher une alternative en plan B, eh ben, je mettrai Marquinhos.
En sentinelle.
Si jamais tu dois vraiment pas mettre Rabiot, je mettrai Marquinhos.
Pour défendre.
Mettrai Marquinhos.
Ouais, pour défendre. Dans ce cas
pour défendre. Il a un bon jeu. J'irai à Bernabéu avec lui. Il a une bonne relance. C'est pas non plus un manchot avec ses pieds.
Non, c'est vrai.
Il a quand même une qualité technique qui est au-dessus de la moyenne. Mais bon, ça, c'est un pansement sur, voilà, c'est vraiment une solution alternative. Je mettrai vraiment Rabiot. Et je pense que ce débat on devrait même pas l'avoir. On aurait même pas dû penser à recruter la Sanadira. Rabiot aurait dû être installé de gré, bon gré, mal gré, à ce poste-là. Il y aurait pas de problème au PSG, au poste de numéro 6.
Oui, mais si, enfin après c'est un peu normal, non, dans un vestiaire. Après il y a des préférences, il y a des joueurs qui se sentent plus à l'aise dans un poste que dans un autre.
Non, mais là la préférence c'est pour son futur transfert. ou pour briller ou pour négocier son salaire. C'est des considérations qui sont un peu stupides.
Rabiot veut rester au PSG, mais
je comprends pas pourquoi il veut pas jouer à ce poste-là, parce que c'est là où il est le meilleur, c'est là où il brillera le plus en poste de numéro 6. On l'a vu à chaque fois qu'il joue, enfin il est monstrueux à ce poste-là. Il a tout.
C'est vrai que moi j'aime bien.
Alors que quand il est plus haut, moi je trouve qu'il se gâche un peu, il a une dépense d'énergie.
Partout,
beaucoup moins fort, un peu plus haut que quand il est vraiment devant la défense.
On va voir ce qu'en pense Damien. En tout cas, vous pouvez répondre sur le hashtag RMC Live et également en nous appelant au 3216. Damien, supporter du PSG, nous a appelé. Salut Damien.
Bonsoir messieurs, bonsoir.
Salut Damien.
Alors aide-nous à trancher, aide Unai Emery à choisir. Alors même si on va l'écouter dans quelques instants, Unai Emery, d'une façon globale, il explique qu'il a déjà une idée depuis un moment sur ce qu'il veut faire du côté du Paris Saint-Germain. Quelle est ton envie, toi, pour ce match face au Real Madrid qui est dans 5 jours?
Moi, j'aurais envie qu'Emery aille au bout de ses idées, c'est-à-dire qu'il a toujours voulu jouer en 4-2-3-1 et qu'il continue là-dessus. Diarra, il n'est pas encore installé. Mota, il revient de blessure. Il n'est pas en grande forme. Moi, j'aimerais qu'il joue en 4-2-3-1. Il a les joueurs pour...
Qui en double pivot, alors, Damien?
Qui en double pivot?
Verratti.
Rabiot Verratti. Normal. Et puis après, devant, il y a une attaque avec...
Et tu mets qui devant, alors?
Cavani, et puis après Neymar, Di Maria, Mbappé.
Ah, Di Maria en 10 alors.
Ou Neymar, Pastore, Mbappé.
Neymar libre derrière, plutôt.
Ouais, Neymar libre derrière Cavani. Enfin, ouais. Pour moi, Emery, il peut jouer en 4-2-3-1. Il a les joueurs pour. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que Diarra s'est installé. Et le problème de Rabiot, comme vous disiez, mais Rabiot, certes, il est très bon en sentinelle. Le problème, c'est qu'il est bête. Il n'a pas envie d'y jouer. Et quand il y joue, il fait sa mauvaise tête. Et on l'a déjà vu dans des gros matchs se foirer complètement.
Et attends, contre le Real, par exemple, il rentre à ce poste-là. Hein. Il est énorme.
Mais là, ça veut dire que tu joues. Enfin, t'as pas de.
Ouais, comme il joue Emery,
t'as pas de sécurité, c'est ça.
Rabiot, il va avoir tendance à beaucoup monter.
Non, tu me dis raison. Mais moi, attends, par rapport à la question de base, quand tu me demandes qui joue en sentinelle, moi je te dis, je mets Rabiot devant la défense, je mets Lo Celso en relayeur et je mets Di Maria en relayeur. Je sors Verratti de l'équipe parce que je trouve qu'il est pas extraordinaire. Oh. Il est bon en ce moment,
mais exagère là.
Alors je garde Verratti. Mais je mets Di Maria au milieu.
Tu mets Sanson, c'est ça?
Non, je mets Di Maria au milieu. Je mets Di Maria à son meilleur poste, au poste avec lequel il a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid, au poste avec lequel il a été en finale de Coupe du Monde avec l'Argentine, et le poste qui est à mon sens le plus naturel pour lui, et j'intègre Di Maria au milieu. Di Maria, il est en feu en ce moment. Lo Celso est très bon, mais Di Maria est en feu en ce moment. Donc mets-le au milieu. Alors c'est là où il est le meilleur, c'est en relayeur.
Ce qui est intéressant, pour rien vous cacher, quand on a préparé l'émission avec Jérôme Thomas, on hésitait entre deux débats, à savoir celui de la sentinelle ou le questionnement autour de Di Maria. Mais finalement, c'est un peu lié. Les deux sont un peu liés.
Et tu le mets à la place de Lo Celso.
Est-ce que Emery ne dit rien et compte jouer comme il a toujours aimé jouer le 2-3-1, quoi. C'est surtout ça. Et je pense que il va dire non, je reviens à mon jeu. Pourquoi? Parce que ça va l'arranger de jouer avec à la fois Verratti, Rabiot. Mais maintenant, aller au Real Madrid avec 4 joueurs à vocation offensive.
Di Maria, tu sais qu'il est très bon. Di Maria, tu le mets au milieu.
Il récupère pas les ballons.
Quand le Real Madrid gagne la Ligue des Champions et quand l'Argentine va en Coupe du Monde, je te donne ses stats, tu verras avec l'Argentine.
C'est avec le Real Madrid.
Et avec l'Argentine qui n'était pas non plus extraordinaire.
Oui, mais c'est vrai.
Qui vont en finale, qui perd jusqu'en Allemagne.
C'est avec le Real
Madrid. C'est pas le même jeu. Le Real de l'époque, c'est pas le même jeu que le PSG.
Ok, alors juste l'Argentine en Coupe du Monde.
Non, mais je te dis pas. Non, mais après, c'est.
On parle pas d'équipe nationale, mais là, le PSG.
C'est du foot.
Non. L'équipe nationale d'Argentine est totalement différente que celle du PSG, la façon de jouer.
Oh, même pire, ils n'avaient aucune certitude.
Et en plus, Di Maria, il était tellement impressionnant que ça soit au Real à l'Argentine que tu étais obligé de le faire jouer. C'est surtout ça.
Moi,
le problème, c'est qu'il est en concurrence.
Là, Di Maria, il joue contre son ancien club.
Oui.
Avec un petit truc, un petit peu à
2-3-1, oui.
Mais non, moi, je le mets dans un milieu à 3. Je le mets relayeur sur un côté, piston sur un côté, c'est son meilleur poste.
Jonathan, moi, ce que j'aime bien avec Emery, c'est que les joueurs, quand ils jouent, ils sont plutôt libres. C'est-à-dire que c'est pas fixe, c'est pas un 4-2-3-1. Par exemple, le sentinelle, elle tourne, on voit que quand il y a Lo Celso, Verratti, Rabiot, ils tournent, il n'y a pas une sentinelle fixe. Et ben là, dans le 4-2-3-1, en phase défensive, tu peux te retrouver sur un 4-3-3.
Exactement, avec c'est ce que j'allais dire d'ailleurs.
Et du coup, c'est ça que j'aime bien avec Emery depuis les belles années, c'est que les joueurs, ils ont un placement plutôt libre et ils sont plutôt intelligents dans leur manière de jouer. Et c'est quand on voit par exemple un Pastore qui rentre, où là, souvent Pastore il va jouer en vrai numéro 10, et ben dans un match, ça peut apporter une solution.
Tu as raison, Damien. C'est pour ça qu'Emery doit le faire, doit mettre un 4-3 sur le papier pour les journaux, pour le petit schéma avant le match. Mais je pense que tu dois mettre Verratti, Rabiot, Di Maria et tes trois de devant.
Mais le problème,
tu dois jouer avec ces joueurs-là.
Non, quand on parle de liberté, Damien, c'est bien aussi. Mais quand tu joues contre le Real Madrid, s'il y a des libertés qui se font, que ce soit souvent Neymar ou Di Maria qui laissent un petit peu leur côté ou quoi, ça peut leur coûter très cher dans les
grands. Il y a un nom qui n'a pas été cité pourtant, nous. On l'a proposé entre guillemets. On l'aurait pu citer Pastore, mais alors peut-être pas en sentinelle. Le sondage a été lancé sur le compte Twitter de l'After. Qui voulez-vous en sentinelle, voire en sentinelle du côté du Paris Saint-Germain? Laurent Fala vient de vous le publier pour l'instant. Vous êtes 36% à répondre. Lassana Diarra, c'est lui qui est devant avec 1% en plus, un point en plus par rapport à Rabiot. C'est vrai que Lassana Diarra, t'évoquais Di Maria qui va jouer face à son ancien club, il a joué au Real lui aussi. T'y crois, toi, t'as envie de le voir à ce poste-là, Damien, ou tu penses que c'est trop juste encore pour lui?
Après, pour moi, c'est un peu trop juste. Mais Lassana Diarra, c'est un joueur qui, dans les grands matchs, il a toujours montré. Moi, je me rappelle des Real Barcelone où il tenait Messi, mais comme pas possible, il faisait un travail exceptionnel. Ça a toujours été un gros travailleur, Lassana. Et c'est vrai que si on devait jouer en 4-3-3, vraiment, sur le papier comme ça, je mettrais plutôt Lassana que Mota, par exemple, sur ce poste-là, dans un match comme ça. Parce que Lassana Diarra, il a toujours montré dans les gros matchs qu'il était capable de faire des kilomètres et des kilomètres, ce que Mota ne fait plus.
Mais là, le problème, c'est de Lassana Diarra, c'est que j'allais penser que là, qu'il y a des blessés, qu'il n'y a pas Mota, qu'il allait enchaîner les matchs, plus ou moins, et on le voit pas autant enchaîner. Est-ce que contre Toulouse, il va jouer?
Il va jouer contre Toulouse, ouais, sûrement. Il va sûrement être titulaire.
Donc, si contre Toulouse il va jouer titulaire, bah, peut-être que l'idée de Emery va être beaucoup plus logique en remplaçant Mota par Diarra.
Moi, je vous persiste
ça sera
à drôle dire
par rapport à
Emery cette année, il a compris. Il faut qu'il joue avec ses ambitions, avec ses idées. Pas forcément son schéma parce qu'il a joué quand même quelques fois en 4-2-3-1 cette saison. Il a vu que ça marchait pas. Le 4-3, c'est le schéma dans lequel son équipe est le plus à l'aise. Mais là, vraiment, si tu restes fidèle à la fois à ce que t'as envie de faire et à la forme, à la forme actuelle, tu mets Rabiot, Verratti, Di Maria et tes trois de devant.
Merci Damien de nous avoir rappelé.
Tu vas comme ça.
Bonne soirée, à bientôt Damien. À bientôt. Ciao Damien. On va cuire Jamal, l'autre supporter du PSG. Il a fait le 32-16. Et là, avec nous en direct dans l'after avec Ali Benarbia et Jonathan Macardy. Salut Jamal.
Salut tout le monde, salut Nicolas, salut Ali, salut Jonathan.
Salut Jamal. Salut Jamal, quel est ton choix? Tu veux qui en sentinelle pour ce match face au Real Madrid? On est à J-5 du 8e de finale de Ligue des Champions.
Bon, déjà, le débat de la sentinelle, c'est un débat qui est assez large. Certains parlent de 4-4-2, d'autres de 4-3-3, d'autres de 4-2-3-1. Moi, mon débat, il ne serait pas porté sur la sentinelle. Moi, mon débat, il serait plus porté au niveau de la défense centrale. On a tendance à vouloir confirmer Thiago Silva comme titulaire indiscutable. Pour moi, ça n'est pas le cas.
Non,
pour moi,
d'accord.
Il faut à tout prix installer Presnel Kimpembe.
Exactement.
Il a deux Thiago Silva dans chaque jambe.
Peut-être pas, pas encore. Pas encore, Jamal.
Non, mais en fait, c'est simple, Jonathan. Match aller contre le Barça, Kimpembe joue 4-0 pour Paris.
Tout le monde
match
a bien
retour,
joué.
Match retour, Thiago Silva joue, on se prend 6-1. À chaque fois que Thiago Silva il joue, ça se passe mal.
Je partage ta conclusion, mais pas forcément ton raisonnement.
Jamal, c'est pas à chaque fois. Au match aller, moi j'étais au parc. Kimpembe a été énorme et beaucoup de joueurs ont été bons. Concernant le match retour, Thiago Silva, c'est vrai que n'a pas porté sa défense comme il fallait, mais t'as beaucoup de joueurs qui l'ont suivi malheureusement.
Non mais Ali, excuse-moi de t'interrompre, mais il faut aller jusqu'au bout des choses. Thiago Silva, il est allé à l'encontre des consignes de Unai Emery. Unai Emery, au retour contre le Barça pour la remontada, il avait dit qu'on jouait un peu plus haut. Et Thiago Silva, c'est lui qui a dit à son bloc de redescendre et de jouer beaucoup plus bas. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a une fracture entre Unai Emery et Thiago Silva à ce moment-là. Et malgré cela, il a maintenu sa confiance. Moi, déjà, si je suis Emery, je joue ma tête sur ce match-là. Thiago Silva, je ne fais pas confiance parce qu'il n'est pas digne de confiance et je m'équipe Mbé. Et pour finir, mon autre idée, c'est qu'à gauche, Kurzawa m'a plu.
Donc du coup, je mets
Daniel Alves à gauche et Meunier à droite. C'est ça. Maintenant, faut plus faire sur les statuts, les sentiments et les transferts.
Si tu enlèves Thiago Silva, tu sais très bien ce qui va se passer. Tu te mets la moitié ou plus de la moitié du vestiaire à dos, dont beaucoup de cadres de cette équipe, justement.
Non, mais au bout d'un moment, il y a l'autorité et le respect d'un coach.
Il l'aurait fait avant.
Oui, mais avant, il a donné sa chance et il n'est pas digne d'avoir de confiance auprès d'Emery. Il n'est pas digne de confiance. Donc, du coup, parti de là, il lui a donné sa chance, ça n'a pas marché. On ne va pas lui donner une seconde chance à Thiago Silva.
S'il lui laisse le brassard et tout, j'ai du mal à imaginer qu'il n'ait pas confiance du tout.
Jamal, je suis d'accord avec toi, mais j'ai du mal à imaginer que ça sera le cas.
Jamal aussi, je pense.
Non, le point d'interrogation, ça ne sera pas Thiago Silva, Jamal, ça c'est clair. Par contre,
Thiago Silva dans les grands matchs,
le poste d'arrière gauche, je suis d'accord
d'accord avec toi, on n'en parle pas, on parle sentinelle. Je le pose d'ailleurs.
C'est marrant, on parlait des latéraux juste avant.
Ouais, mais je vois mal, Emery mettre Meunier arrière gauche.
Non.
Non, Alves à gauche et Meunier à droite.
Alves à gauche et Meunier à droite.
Alves, il veut jouer milieu terrain, Jamal.
Écoute, réponse dans 5 jours, Jamal. Merci de nous avoir appelé, Jamal.
Ciao, Jamal.
Pas de soucis. Et faut boycotter Areola aussi. Hein.
Faut
qu'Areola aussi il saute. Hein. Areola.
Mais tu mets qui?
C'est, il veut dégager tout le monde, Jamal.
Mais je mets Jean-Louis Tour.
Il peut pas. Il est déjà sous contrat, le mercato est terminé.
Non, c'est que il
ça va te coûter très cher, Jamal, de prendre Jean-Louis. Très cher en skate, en notre côté.
C'est que Jean-Louis, il est sous régime et ça sera trop juste.
Tiens, je vous donne juste le calendrier du Paris Saint-Germain. Sur les 18 prochains jours, ils ont 5 matchs en 18 jours, les Parisiens. Ça commence demain.
Combien de matchs à domicile ?
Déplacement à Toulouse. Justement, je vais te donner. Ensuite, déplacement à Madrid pour jouer face au Real. Ce sera le 14 février. 3 jours plus tard, ils reçoivent Marseille. Et ensuite, ils reçoivent Strasbourg, pardon. Et ensuite, ils reçoivent 2 fois Marseille. Et pour les quarts de finale de la Coupe de France. Et avant cela, eh bien, en Ligue 1 également. Ça fait beaucoup, hein, là, quand même. Hein. C'est chargé, hein, pour les Parisiens.
Mmh. Ouais. Par contre, les supporters du Parc, ils vont se régaler avec PSG-OM, PSG-Real Madrid. Ça va être top, ça.
Et puis, vous le savez, les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang ont démarré sur RMC. Demain, intégrale Pyeongchang dès 6h du matin avec la Dream Team SFR Sport, Nathalie Péchala, Marie Marchand-Ravier, Sandrine Bailly, Jean-Luc Crétier, Sébastien Amier. Un débat dans les grandes gueules du sport, ce sera à 11h. Les Jeux Olympiques d'hiver sont-ils vraiment universels? Les Jeux Olympiques de Pyeongchang 2018, c'est jusqu'au 25 février. Sur RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Pyeongchang 2018 et de l'équipe de France Olympique. L'after revient juste après ça.
RMC, le super football show. L'after foot, Nicolas Villas.
Je peux ! Et l'after qui est de retour. Parce qu'en fait, on est en radio et en télé sur BFM Sport, bien entendu, en télé. Donc en fait, il y a un décalage à chaque fois. Donc j'ai entendu, il me fait attends, tu peux, c'est bon. On est donc dans l'after avec Ali Benarbia, c'est lui. Jonathan Macardy, c'est lui.
C'est
Marseille et Saint-Etienne ont fait match nul. 2 buts partout. Première affiche de la 25e journée de Ligue 1. Et Simone Rovella nous a rejoint. Ciao, Simone.
C'est Marie Kamsik ce soir.
Tout peut.
Mais t'as fait une crête ou quoi?
Parce qu'Amsic cherche les 100e buts avec Naples, donc
la crête.
Bah, rend hommage
c'est
à
Macaro.
Mais que facciato che t'es malato, non? Un po' chiuso. On dirait vraiment de l'italien.
Les rapports d'or.
Il y avait la 25e journée, 24e journée de Serie A. Tu ne suis pas, Simone. La Juve s'est imposée à Florence 2-0 face à la Fiorentina. Alors c'est important parce que provisoirement, la Juve est leader avec 2 points d'avance sur le Napoli. Le Napoli qui aura un gros match demain soir à 20h45 face à la Lazio.
Sans Goulam en plus.
On va y revenir, ouais, sur Goulam.
Déjà absent, mais Naples, tu veux savoir.
Qu'est-ce qu'il a goûté
d'autre travers il s'est refait mal au genou, il s'était cassé les ligaments.
Fracture de la rotule, il a.
Fracture de la rotule.
Il n'a pas joué depuis le mois de novembre, il s'est fait les croisés.
On va reparler plus tard. Il faut parler de cette Juve qui une victoire, j'ai dit extraordinaire, pas sur la façon de jouer, parce qu'elle souffre énormément. Mais elle gagne face à la Fiorentina, qui c'est un match hyper compliqué, parce que pour la Fiorentina, c'est le match de l'année.
Ouais, ils sont un peu à la rue cette année, non? Ils sont 11e.
Là, en ce moment,
ils jouent plutôt bien. Ils ont changé énormément cette saison.
Ils ont perdu beaucoup de joueurs.
A été Federico Bernardeschi qui
a marqué le premier but de la Juve.
La Fiorentina, pour aller à la Juve, il a été sifflé énormément pour tous les matchs, avant les matchs. Et lui, il était le dernier de la Juve à sortir après l'échauffement. Et il a entendu pour écouter tous les sifflets. Il a regardé les villages de la Fiorentina. Il est rentré au vestiaire. Un peu comme petite promesse, ok, je suis là, sifflez-moi. Et après, il a marqué les buts décisifs pour faire gagner la Juve. Gros courage. On a parlé beaucoup de ce match cette semaine en Italie. Pourquoi? Parce qu'en 91, c'était qui était passé de la Fiorentina à la Juve? C'était le numéro 10.
C'est Baggio.
Roberto Baggio.
Oh, Roberto Baggio.
Et quand il était revenu
à Florence. C'est quoi son déjà, lui?
Divin Codino.
Ouais, c'est ça?
Ouais. Le Codino, c'est.
Avec le truc derrière, la petite méchouille.
Et quand il était revenu à Florence, il n'avait pas frappé un penalty. Un peu, on disait parce qu'il avait peur, on peut dire parce que le gardien le connaissait bien. Ce soir, Bernardeschi a pris sa responsabilité, coup franc, pied gauche, magnifique. Et après, 2 euros, signé Higuain. J'étudie un stat qui, à mon avis, c'est extraordinaire.
Vas-y.
Sur les 16 derniers matchs, la Juve a incassé un seul but.
Mais tu sais, mais il y a une vraie haine entre ces deux équipes. Hein. Moi, pendant l'Euro 2016, j'étais à Florence, parce que France est ma ville préférée en Europe. J'étais à Florence pour quand l'Italie s'est éliminée contre l'Allemagne. Les gens, ils jubilaient quand Bonucci. C'est Bonucci qui loupe le tir au but.
Les gens applaudissaient qu'il le loupe, quoi. Moi, je disais, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi, c'est
inexplicable. C'est vraiment un truc incroyable. Pour la Fiorentina, l'ennemi, c'est la Juve. Et le fait que c'est Bernardes qui a marqué un but, ouais,
ça fait mal, hein.
Vraiment mal.
Mais la Fio, c'est pas une équipe italienne, c'est une équipe de Ligue 1 maintenant. Bah, c'est les Français qu'il y a.
Ouais, et il y a un Français qui aurait
pu. Terreo,
Lorenzi, Lorini.
C'est Corvino. Non, c'est pas français, mais.
Non, mais si, mais il a beaucoup.
Il a beaucoup suivi.
Comment il s'appelle?
Corvino.
Ah non,
c'est comme ça. Et c'est 5 Français.
Un autre agent.
Verretou, qui aurait pu être protagoniste ce soir, parce qu'Alfredine a eu un pénalty. Pour 3 minutes, il a eu un pénalty.
Ouais, alors, faut que tu racontes cette histoire, parce que l'arbitrage vidéo a fait des siennes, visiblement, encore. On voit les images,
c'est
d'ailleurs, sur BFM Sport.
C'était un délire.
Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé?
C'était hyper compliqué. On voit sur les images, sur BFM Sport, la main de Chiellini. Déjà, on peut discuter si est-ce que c'était main ou pas. Après 3 minutes de visionnage, ils ont vu qu'il y avait un hors-jeu au départ de l'action. C'est un hors-jeu hyper compliqué à étudier parce qu'il y a une touche aussi dans le défenseur de la Juve. Mais il faudrait choisir si c'était volontaire ou pas volontaire, si il jouait le ballon ou pas. Et donc, 3 minutes plus de visionnage pour annuler les pénaltys.
Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup parler en Italie.
C'est sûr qu'ils ont pris la bonne décision au final.
À mon avis, compliqué. Peut-être oui, mais c'est vraiment très très compliqué parce que juger sur une image si c'est volontaire en touche ou pas du ballon, c'est pas simple. Non. Et ça, c'est peut-être une des zones d'ombre, un trou noir où il faut intervenir pour éviter que la VAR, ça devienne un problème et pas une solution. Parce que la volontarité, c'est toujours compliqué à
De toute façon, ce qui est signalable, c'est dans le règlement, hein, mais c'est l'intention ou pas, c'est l'intentionnalité de faire la main ou pas. Hein,
une chose encore très importante sur Gigi Buffon, qui faisait 500 matchs ce soir avec le Malo de la Juve.
500.
Avec la Juve. Qui était extraordinaire, encore une fois, dans le but. Et que Gigi Di Biagio voudrait appeler pour les prochains matchs de la sélection italienne. Et lui, apparemment, voudrait continuer encore un an, peut-être deux. On a dit ce soir, selon les journalistes présents au match des Sky Sports. Donc, on envisage la possibilité de voir Buffon continuer pas seulement un an, mais deux pour jouer l'Euro 2020.
Pas mal ça. Parlons du Napoli, alors qui jouera demain face à la Lazio et qui du coup a la pression, puisque le Napoli a 2 points de retard maintenant sur la Juve.
Et la Lazio arrive de 2 défaites, c'est un peu incroyable, parce que la Lazio c'est l'équipe qui a toujours joué très bien.
La Lazio qui est 3e. Hein.
La Lazio est 3e, la Lazio qui est à mon avis la plus belle surprise de cette saison, parce que c'est une équipe qui joue bien, qui a des bons joueurs, arrive de 2 défaites d'affilée, et donc à Naples, ils vont faire un match... pas pour se défendre, ils ont été capables d'aller gagner à Turin face à la Juve cette saison. Ils ont battu même la Juve en Supercoupe, donc la Lazio joue très bien. Et Naples a reçu à niveau moral, on peut dire, ses coupes d'or énormes ce soir. Parce que Goulam, on se rappelle, s'était fait les croisés les 1er novembre face à Manchester City. Il est revenu vite, très très vite. Ça faisait presque une semaine, 10 jours qu'il s'est entraîné déjà avec les groupes. Et là, cette fracture de la rotule, même genou, les droits. Et ce soir, elle a déjà été opérée à Rome par le professeur qui est d'une clinique très connue en Italie. Et on s'est posé la question, est-ce qu'il a trop forcé sur ses genoux pour revenir trop vite? C'est une question que peut-être, Ali, toi qui es joué, tu peux lui donner la réponse.
Ben, il a une grosse musculature. Hein, Goulam, c'est ce qu'ils disent, il est impressionnant physiquement.
Ouais,
le problème,
vrai.
Quand tu veux vite revenir, tu forces beaucoup plus. Mais comme ton corps, lui, n'enchaîne pas les matchs, ce n'est pas la même chose. Le rythme est totalement différent. Donc quand tu reprends dans un match, ben, tu n'as plus l'habitude de ce rythme-là musculairement et tu es toujours en sur-régime.
Et tu compenses.
Et quand tu es en sur-régime, tu forces trop là où tu ne dois pas forcer. Voilà. Et ton genou, lui, n'est pas prêt à subir ça. Et là, on ne parle pas de matchs amicaux ou des matchs de France ou de début de saison.
Non, mais lui, il s'était repris l'entraînement. Il devait débuter la semaine prochaine à l'Europa League. Il devait reprendre la compétition. Mais tu sais, les entraînements, quand même...
Non, surtout en Italie. Et en plus, avec Sarri. Et en plus, il a en tête quoi? La Champions League, Goulam. C'est ça, le problème.
Il veut aller...
Mais c'est ça, le problème. Il ne fait pas de Coupe du Monde, il a la Champions League. Donc, le championnat, il est là. Il aimerait être aussi champion.
Ils ont l'Europa League, je ne vais pas la Champions League. C'est vrai qu'ils ont des objectifs très importants à Naples.
Alors, parle-nous des équipes qui suivent, parce qu'on parlait de la Lazio, donc, qui est 3e au classement. Ils ont 4 points de retard sur le Napoli, les lazialistes. Ils ont 1 point d'avance sur l'Inter, 2 points d'avance seulement sur la Roma, qui est donc 5e. Alors, on aura l'Inter qui jouera face à Bologne, on aura la Roma qui jouera face à Benevento et la Lazio donc, face au Napoli. C'est serré là derrière également.
C'est un beau championnat, un peu comme le championnat qu'on a en France pour la 2e-3e place. En Italie, on a 2-3 équipes.
Enfin, là, t'en as même deux qui se tirent la bourre pour la première place en Italie.
Non, non, oui, mais j'ai dit la Loot, c'est entre trois équipes qui se jouent deux places pour la Ligue des Champions. Inter et Rome sont dans une période très compliquée. L'Inter, ça fait 9 matchs qu'ils ne gagnent pas.
C'est fou, ça.
S'ils ne gagnent pas, c'est face à Bologna.
Toi, t'as très vite été pessimiste. Hein. Même quand ça allait bien, tu le sentais pas. Toi.
Bah, pour les titres, jamais. J'avais dit une fois que si Cardi continuait un certain régime, quand il était meilleur buteur et était presque sous régime, l'Inter pouvait avoir une chance. Là, Cardi est devenu normal. On a perdu Perisic, qui est la plus marquée depuis les 3 décembre, dernière victoire de l'Inter. Donc l'Inter est totalement en difficulté. Et c'est pas seul. Il a eu des matchs compliqués, parce qu'il a joué face à la Fiorentina, à la Roma, à la Juve, c'est vrai. Mais quand même, n'a pas été capable de gagner face à Sassuolo, face à Crotone, face à l'Udinese. Et on voit vraiment que c'est une équipe en énorme difficulté. Là, face à Bologne, il y a aussi Icardi qui ne s'est pas entraîné bien. Il voudrait jouer, mais il revient des blessures. Donc on risque d'avoir un Inter sans Icardi. Si l'Inter ne gagne pas, ça devient un résultat historique parce que jamais il est resté 10 matchs sans victoire.
Autre chose à rajouter ou pas sur l'Italie, mon Simone?
Non, il faut...
Sagna, il a joué ou il va jouer bientôt ou pas?
On devrait voir même chez Diabaté à Benevento. On a cette équipe.
Il n'a pas encore joué d'ailleurs Diabaté, je crois.
Non. On va voir si c'est week-end, mais attention, face à la Roma, ça va être pas.
Il est capable de marquer. Il reste combien de matchs là?
Une dizaine.
Allez, je suis sûr qu'il met au moins 5 buts.
Un peu plus. Un peu plus. 13.
Je suis sûr qu'il met au moins 5 buts. On se moque de Diabaté, mais marque. Partout où il passe,
il
marque.
On se moque pas. C'est un bon joueur, Diabaté.
Tu verras qu'il mettra au moins 5 buts.
Oui, il marque fort. Tu sais que Jérôme Thomas me demande ce que tu fais cet été pendant le mondial.
Je sais pas, j'attends de votre instruction.
Mais t'as pas envie de suivre une équipe, un truc comme ça, une autre?
Mais j'ai
pas la Suède, Bah c'est là, ce serait marrant, franchement.
La Suède, c'est pas sympa.
Ah, mais ce serait marrant.
Y a pas une équipe.
Autant suivre ton bureau.
Tu parles italienne?
Ah bon?
On a parlé de la Suisse, mais on va voir. La Suisse.
Ah, il y a des Italiens, Suisses qui parlent italien.
On peut attendre.
Il y avait des bois, mais les Suisses, ça
j'attends,
me fait penser.
J'attends, j'ai des propositions.
Très bien. Jérôme Thomas, à suivre la Suède, c'est le syndrome de Stockholm.
Mais
les
Suisses, il y a la Suisse, il parle italien en Suisse en plus.
Ouais, il parle tout, allemand, français.
Ah oui, la Suisse, c'est bien.
Oui, ça me fait penser quand Napoli, c'était le milieu, il est totalement suisse. C'était Berami et Hindler.
Ouais, Berami et Hindler.
Non, t'as pas envie?
Non, ils préfèrent. Okay. Il faut changer de sujet, non là?
Ouais, si tu veux.
J'étais déjà dit que
Bouffon. Mais c'est normal, ils n'ont pas de
On parlait de.
Ils n'ont pas de sélectionneur, ils n'ont pas Simone.
Bah, rien,
c'est normal.
Juste une petite info également, puisqu'on parlait de Fawzi Ghoulam, voilà, mauvaise nouvelle pour l'international algérien. Il y a un autre international algérien également qui a fait l'actualité, mais c'est en Angleterre. C'est avec la PL, c'est sur SFR Sport. Mmh. Il a repris l'entraînement avec Leicester aujourd'hui, Riyad Mahrez. Ah ouais. Vous savez qu'il y avait. C'était pas au top depuis son transfert, son non-transfert à Manchester City. Et Leicester joue face à Manchester City.
Mais je pense pas, il jouera pas.
Alors il l'a dit d'ailleurs, Claude Puel, hein, il l'a dit, il est pas prêt. Il a fait le déplacement quand même avec ses coéquipiers. Les Foxes qui ont publié un communiqué de presse en fin d'après-midi. Riyad a repris l'entraînement aujourd'hui avec le groupe de Leicester. Riyad reste un membre très apprécié au sein du groupe de Claude Puel et il se concentre tout comme ses coéquipiers sur les prochaines échéances de Leicester City. Et lui-même, il a publié un communiqué de presse en disant il y a des personnes qui ont parlé en mon nom. Ça n'a pas été ils n'ont pas à se prononcer. Leicester savait très bien où j'étais ces derniers jours.
Super mec, Mahrez, de toute manière. Je le vois pas foutre la merde.
C'est
un bon gars. Il sait qu'il partira
avec ce qu'il a donné avec Leicester au moment où Manchester City propose presque 70 millions. C'est quand même dommageable par rapport aux joueurs.
Et une petite info pour terminer également, dans le cadre du litige entre le LOSC et Bielsa, Lille qui jouera à Nantes hein, d'ailleurs dimanche à 17h, communiqué de presse du LOSC, la commission juridique de la Ligue de football professionnel a auditionné le mardi 6 février les représentants du LOSC et de Marcelo Bielsa. Ce vendredi soir, l'instance a communiqué sa décision et notifié qu'aucune infraction aux dispositions de la charte du football professionnel ne devrait être retenue à l'égard du LOSC dans le cadre de sa relation contractuelle avec Bielsa. L'avocat du LOSC a expliqué la LFP était convaincue que le LOSC n'avait jamais eu l'intention de frauder. De son côté, Marcelo Bielsa demandait à ce que le club soit sanctionné, ce qui n'a pas été le cas. Il demandait également à ce que le contrat signé sous sein privé soit reconnu par la LFP, ce que la LFP s'est refusé de faire. Il y avait pas mal d'informations contradictoires entre le clan de Bielsa et celui du LOSC ces derniers jours. Voilà, et là, visiblement, la LFP a tranché. On remercie Ali Benarbia. Bonne soirée, mon Ali. On remercie Jonathan Macardy. Merci.
Merci à toi,
Simone.
Bonne soirée.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Nous, on se retrouve demain pour l'after. Même heure, même endroit. Bisous. Ciao, ciao.
RMC, le super football show, l'after foot.